Chapitre 3. Antoine et André, levant la tête, poussèrent ensemble une exclamation. Aussitôt, Madame Jacquier se pencha pour les voir sous l'abat-jour et pour deviner à leur physionomie lequel des deux s'était exclamé le plus haut. « Ce doit être Antoine, pensa-t-elle, il est si vif, mais cela ne signifie rien. »« Voilà qui est bien subi, » dit-elle assez froidement, se laissant retomber au fond de son fauteuil et tapotant de ses mains indolentes un petit coussin mou qu'elle se mit ensuite sous la nuque. « Reste à savoir si vous conviendriez, ma chère. Vous êtes bien jeune. Combien de temps y avez-vous réfléchi ?»« Environ 25 secondes, » fit Juliette de son air sérieux. « Que la jeunesse est légère !» fit Madame Jacquier en secouant la tête, ce qui dérangea de nouveau le petit coussin. « 25 secondes, et l'on s'imagine avoir réfléchi. Et le consentement de votre mère, l'avez-vous ? Et celui de vos si respectables cousins ?»« Mais considérez, madame, » fit Juliette en riant, « que 25 secondes, c'est bien peu de temps pour réunir un conseil de famille. » « Ah, ma chère, il est aisé de rire. On rit pendant une heure, on pleure pendant des années. Qu'est-ce qui vous fait souhaiter d'avoir la place qu'offre Madame Dumorel ?» Madame Jacquier possédait un brin de curiosité quand il ne fallait pas se déranger trop pour y satisfaire. Elle se demandait s'il y aurait eu de l'orage dans la famille Beausire. « Mes sœurs gagnent leur vie, » répondit Juliette qui rougit. « Il me semble désirable d'en faire autant. » « Et puis... » Elle se tourna du côté d'André, le coude sur le bord de la table basse et sa joue délicate appuyée sur sa main. « Je soupire après une certaine manière de vivre, » fit-elle à demi-voix. « Je la crois bonne, mais il m'est impossible de la pratiquer à la maison. » « Dans ce cas, j'inclinerais à la croire mauvaise, » dit André, dont les convictions, comme toutes les convictions jeunes, ignoraient les adoucissements. Juliette baissa la tête et avança sa main pour cacher ses yeux qui se remplissaient de larmes. Antoine la regardait, troublé, plein d'un étrange conflit de sentiments. « L'idée est pour le moins singulière, » fit Madame Jacquier avec quelque aigreur. « Une certaine manière de vivre, un régime, l'hygiène knep, comme ce quasi-détraqué de Vitalis Dubois. « Ah, je vous demande pardon, André, mais si les jeunes filles se mettent, elles aussi, à avoir leur lubie, et vous figurez-vous que Madame Dumorel permettrait à sa demoiselle de compagnie d'avoir des idées particulières ?»« Mon idée particulière ne serait pas bien gênante, » fit Juliette avec un petit sourire un peu triste. « Je suis assoiffée d'ordre, voilà tout. L'ordre dans les armoires, dans les occupations, dans les dépenses, l'ordre partout. » Une maison bien ordonnée, le linge toujours prêt, les provisions dans de beaux petits sacs avec le nom brodé dessus. Imaginez les pommes de terre dans des sacs brodés, fit Madame Jacquier, riant de son rire gras de chanoinesse. Bien, bien, cher enfant, je vous taquine, mais je sais que vous voulez dire la semoule, le riz, le gruau. Mes petits sacs à moi sont marqués en rouge. Je vous montrerai mon armoire à provisions, puisque cela vous intéresse. Vous aimez donc le ménage tant que cela? Je ne l'aurais pas cru à vous voir le premier jour, vous et vos sœurs, et mon grand-fils que voilà, jouer au volant avec un petit savon qui tombait continuellement dans la fontaine. Un joli savon de toilette encore. Nous sommes ainsi, dit Juliette. Nous avons dans notre caractère des morceaux de ceci et des morceaux de ça. Après tout, j'ai peut-être tort de désirer partir. Cependant, il me semble qu'on a le droit de vivre sa vie. Le droit, s'écria Antoine impétueusement, je crois bien qu'on l'a, ce droit. Autrement, tout être qui a le malheur de posséder une conscience serait d'avance écrasé. Antoine, Antoine, protesta sa belle-mère d'un ton plaintif. Comme tu parles, tu deviens profane positivement. Le malheur d'avoir une conscience. Si ton pauvre père l'entendait, lui qui était si religieux. Antoine haussa les épaules et se tut. Pourquoi sa belle-mère ne faisait-elle pas ce soir son petit somme accoutumé? Faudrait-il éternellement l'entendre débiter ses petites platitudes? Éternellement? Éternellement? Cette impression de mort d'ennui lui parut tout à coup se prolonger à l'infini et, comme un nuage de fumée, assombrir toutes les perspectives de l'avenir. Toujours cette femme, toujours ce crampon tenace, cette voix irritante qui se mêlait à tout comme une obsession. Il se souvint d'une soirée passée à la Touffette où elle n'était pas. Quelle douceur de pouvoir s'entretenir paisiblement, intimement, ou même de se taire, sans avoir à craindre l'éternelle fausse note. Cependant, Madame Jacquier, voyant que l'entretien languissait et que déjà tombait la petite excitation causée par l'incident de la lettre, haussa les épaules dans son fauteuil, se dit que Juliette Beausire avait, après tout, fort peu de ressources de conversation, et, tout doucement, laissa ses paupières se fermer sous une influence assoupissante. « Ose-t-on parler ?» demanda Juliette à demi-voix au bout de quelques minutes. Antoine souleva un coin du volant de soie verte qui flottait autour de l'abat-jour. La figure large et blanche de Madame Jacquier, sur laquelle glissa un instant le rayon de la lampe, n'exprimait plus qu'une absolue et béate indifférence à tout son entourage. « Oui, nous pouvons causer, » dit-il avec un sourire. Presque sans y songer, ils se rapprochèrent tous trois et Juliette se mit à faire rouler sous ses doigts distraits le crayon qu'Antoine venait de poser. « Est-ce bien sérieux, cette idée de départ ?» demanda André d'un ton plein de sincères regrets. De sincères et affectueux regrets, mêlés d'un peu de reproches, tandis que la voix d'Antoine, l'instant d'après, sonna ironique et mordante, et Juliette eut l'intuition rapide qu'André parlait comme un frère, mais Antoine... « Vous en avez donc assez de nous, mademoiselle Juliette, » dit Antoine. « Au fait, cela ne m'étonne pas trop. J'en ai moi-même assez de cette plate vie. Je ne tiens qu'à toi, André, » poursuivit-il affectueusement, jetant son bras sur l'épaule de son ami, « et à mes voisines, » ajouta-t-il d'un ton plus bas. Ses yeux rencontrèrent ceux de Juliette, échangèrent un regard droit et clair qui était une question, contre un regard un peu triste qui signifiait « Je voudrais bien ». « Ah !» s'écria Antoine, dont le cœur bondit tout à coup, « si nous pouvions partir, nous trois, pour le pays de fantaisie où se passent les choses impossibles ? Jamais, en ce monde de discordance, trois créatures mortelles ne se sont entendues aussi bien que nous. Je crois même que de simples anges ne réaliseraient pas une aussi belle harmonie. Et vous voudriez partir seule, pauvre petite voisine ?»« Je ne tiens pas beaucoup à partir, » dit Juliette dont la voix trembla. « Mais je voudrais vivre autrement, et c'est impossible chez nous. Dites-moi le fond de votre pensée, » poursuivit-elle vivement, se tournant vers André. « Donnez-moi un conseil. » « Un conseil ?» fit-il, arrêtant sur elle son regard sérieux. « En avez-vous besoin, vraiment ?»« Non, je n'aurai pas la présomption de vous donner un conseil. »« Grondez-moi alors, cela me fera du bien, » dit-elle énervée. « Comment ? Quoi ?» s'écria Madame Jacquier, se redressant tout à coup au bruit que fit l'escalier qui craquait et la porte qui s'ouvrit pour laisser passer la tête effarée de la bonne. « Le courrier ? Mais non, il est déjà arrivé. Julie, expliquez-vous » fit-elle avec dignité et s'efforçant d'ouvrir les yeux tout à fait. « Madame, c'est ce monsieur, l'homme de la Touffette, le monsieur où demeurait Monsieur André. » « Il dit qu'il vient causer un moment, il remet ses souliers avant d'entrer. » Tout au contraire des musulmans qui se déchaussent pour pénétrer dans un sanctuaire, fit derrière la porte la voix haute, sans inflexion, du cousin Vitalis. « Pardonnez-moi, ma bonne fille, mais si vous vous ôtiez de mon soleil, je veux dire de devant cette lanterne, j'y verrais mieux pour nouer le dernier cordon. » « Jolie lanterne, très jolie lanterne !» fit-il, saisissant son bâton par le petit bout pour atteindre la veilleuse de cristal opalin qui éclairait le vestibule et la faire osciller au milieu de ses chaînettes. « Ma bonne fille, dites-vous bien que si Galilée n'avait pas avant moi découvert l'attraction de la Terre et la gravitation universelle, je les aurais découvertes peut-être rien qu'à voir cette lanterne se balancer. » C'est ainsi que l'idée lui en vint, à lui. Malheureusement, toutes les grandes découvertes sont faites. « Entrez-vous, monsieur Vitalis, ou non ?» s'écria de son fauteuil madame Jacquier. « Il nous arrive un courant d'air ?»«
Je suis prêt, madame, j'entre à l'instant. Il faisait une petite pluie douce tout à l'heure qui m'a engagée à la promenade. Avec la rosée du matin, ce qui me ravit, c'est une petite pluie douce le soir. Je me déchausse et je prends un bain nep le long des sentiers. » Apercevant vos fenêtres éclairées, je me suis souvenu d'André Humbert qui me délaisse un peu. Alors je me suis dit, tu feras la réaction dans le corridor de madame Jacquier, puis tu te rechausseras et tu monteras présenter tes hommages à la compagnie.
La réaction ? Répéta madame Jacquier avec effroi. Comment la faites-vous, cette réaction ? 20 pas en avant, 20 pas en arrière, jusqu'à ce que les pieds soient parfaitement réchauffés, après quoi l'on met ses chaussettes. La natte de votre corridor est un peu rugueuse, ce qui est excellent pour établir la circulation. Je ne saurais trop, madame, vous conseiller l'hygiène Knepp si vous souffrez habituellement du froid aux pieds. » La pensée de cet homme, promenant ses pieds nus, souillés de la terre noire des sentiers, sur la fine natte de son vestibule, causa à la pauvre madame Jacquier un instant de suffocation, mais elle n'osa rien dire, car Vitalis Dubois avait la langue méchante et pas l'ombre de ménagement pour qui que ce fût. Il entra, serra dans sa pince osseuse les deux doigts grassouillés que madame Jacquier lui tendait faiblement, jeta à Juliette un regard de travers avec un bonsoir à ses revêches, puis il fit le tour de la table pour aller s'asseoir à côté d'André. « Eh bien, c'est comme ça que tu m'oublies ?» 4 jours sans compter aperçu à la Touffette. Mais tu as trouvé mieux que la Touffette, j'en conviens.
J'y suis allé hier pour vous voir, dit André. Vous étiez sorti.
Tu as mal choisi ton moment. Je faisais mes emplettes en ville. Que ça ne te décourage pas, mon garçon. Reviens jusqu'à ce que tu me trouves. J'aime ta conversation et celle de ton ami, continua-t-il en se tournant vers Antoine. On apprend toujours quelque chose avec les jeunes gens instruits. Mon idée à moi, vous savez, c'est d'apprendre. Les gens me disent, mais tout ce que vous apprenez là ne sert à personne. Et si ça me fait plaisir, donc? Moi, je leur réponds, je suis venu au monde avec l'idée fixe d'apprendre, j'ai tout sacrifié à mon idée, j'ai vécu pour mon idée jusqu'à 53 ans, ce n'est pas aujourd'hui que j'en vais changer. Oui, mademoiselle, fit-il, hochant la tête en regardant Juliette. Vous voyez en moi un homme qui n'a jamais changé d'idée. Voilà qui étonne votre sexe.
Reste à savoir, dit Juliette, si l'idée en valait la peine.
Elle dit cela d'un ton tout drôle, comme si elle s'adressait cette question à elle-même. Tout à l'heure, elle disait « Vivre ma vie !» et cela sonnait beaucoup mieux, cela sonnait plus noble, plus beau, plus intellectuel que la formule du cousin Vitalis. Vivre pour mon idée fixe. L'espace d'une seconde, Juliette eut comme une vision des effroyables stérilités de l'égoïsme. Elle avait dit « Vivre ma vie » et l'écho d'une parole sainte lui vibrait dans l'esprit. « Nul de nous ne vit pour soi-même. » Penchée en avant et le front dans sa main, elle regardait Vitalis Dubois, sa figure maigre et dure, ses gestes secs. Elle écoutait cette voix rêche dire des choses qui semblaient la caricature de ses pensées à elle, des pensées d'Antoine, de leurs aspirations. Le cousin Vitalis avait recommencé à parler. Quand il rencontrait des auditeurs au-dessus du commun, il se répandait volontiers, cherchant à produire l'étonnement et l'admiration. « Si l'idée en valait la peine, répétait-il avec ironie, regardant Juliette par-dessus son épaule. » Une idée, d'abord, une vraie, est quelque chose de rare, de très rare. Les jeunes demoiselles prennent souvent leurs caprices et leurs jacasseries pour des idées. Et quand une idée est plus que cela, quand c'est, comme vous diriez, un aimant, une aiguille pointée, bref, un quelque chose qui vous attire ou qui vous pousse depuis que vous êtes au monde, alors, jeunes gens, ça s'appelle une vocation. Les 3/4 des hommes, les 9/10 plutôt, feront ceci ou cela indifféremment, ils seront aussi heureux de planter des choux qu'à fabriquer des montres. De l'autre 1/10, chaque individu porte une marque. Toi, André, tu l'as, cette marque. Fâcheux pour toi, d'ailleurs, car je ne vois pas trop comment tu y feras honneur.
Ah ! S'écria madame Jacquier, que vous êtes cruelle de parler de la sorte. Vous allez décourager André, qui se donne tant de mal pour apprendre à dessiner, le pauvre garçon.
Madame Jacquier était ainsi, elle soulignait. André rougit vivement, mais, levant les yeux, il rencontra ceux d'Antoine, plein d'alarme et de chagrin.
« Oh, je suis à l'épreuve, » dit-il avec un sourire sans contrainte. « Je m'endurcis à ce genre de remarques. »
« C'est ce que tu as de mieux à faire, mon garçon, » prononça le cousin Vitalis. « En ce monde, il ne faut pas être trop sensible. Tant mieux pour toi si tu fais ton chemin. D'ailleurs, les gens auront égard à ce qui te manque. » Mais je vous disais que pour moi, quand je me fus découvert la marque, je pensais « Tu es du petit nombre, soigne-toi, soigne ta vocation. Le reste ne te regarde pas. » Ma vocation, c'était les sciences, les découvertes, tout ce qu'il y a de nouveau dans la physique, dans l'électricité. Et l'hypnotisme, voilà qui est intéressant. J'avais loué un enfant de la commune, rien que pour faire des expériences dessus. Mais il était trop frétillant. Je n'ai jamais réussi à l'endormir et au bout de 9 jours, il décampait. Le bras d'André m'a fait aussi passer plusieurs beaux moments. Oh, les sciences, toutes les sciences! Les autres hommes s'inquiètent de manger et de boire. Pour moi, apprendre, c'est le pain, la viande et le vin. Il redressa sa haute stature osseuse et promena autour de lui un regard qui quêtait l'approbation, même l'applaudissement.
Qu'il est ennuyeux! Soupira madame Jacquier derrière sa main, tout en jetant un furtif regard à la pendule.
Antoine baissait les yeux d'un air sombre.
Vous imaginez bien, poursuivit le cousin Vitalis, que j'aurais pu me marier tout comme un autre. Eh bien non, cette corde-là, je l'ai fait sauter. Je me suis dit, ça te distrairait, ça te ferait des devoirs. La famille, on ne sait jamais où ça s'arrête. Nous avions une petite voisine assez gentille qui s'est mise dans sa sotte tête de compter sur moi. Elle a dû s'en passer.
Juliette, sans savoir pourquoi, sentit ses joues devenir horriblement brûlantes et, au même instant, les yeux d'Antoine se tournèrent vers elle. Vitalis Dubois tirait sa montre.
« Comment ? S'écria-t-il. Déjà 9h20 ? J'ai tout juste le temps d'être rentré chez moi pour 9h30. » Comme le temps passe quand on cause. Mais 9h30, c'est mon principe. Bonsoir, jeune demoiselle. Je ne vous offre pas de vous reconduire. D'autres en seraient trop jaloux.
Il coula un regard plein de malice vers madame Jacquier, que ce mot avait fait sortir de sa torpeur ennuyée et qui, tout à coup vigilante, rentrait dans son rôle de chaperon. André Humbert s'était levé pour reconduire son cousin. Quand il rentra, Antoine se tourna vers lui très vivement.
« Mais il est atroce, ton cousin Vitalis, » s'écria-t-il. « Quand il parle de sa vocation, on croit voir le char de Jaguernaut qui s'avance impitoyable, écrasant tout. Ce pauvre petit loué par la commune, cette pauvre fillette gentille et toutes les notions de famille, d'affection. S'il t'a accueilli chez lui, c'était comme les cannibales recueillent les voyageurs, pour t'offrir en sacrifice à son idée, à sa stupide et grotesque idée. Les sciences, il appelle son fatras les sciences, il appelle son égoïsme une vocation. En vérité, on n'ose plus, après lui, prononcer le mot de vocation, tant il le fait ridicule, presque odieux. »
En achevant sa tirade, Antoine essaya de rire et de hausser les épaules, pour n'avoir point l'air de prendre le cousin Vitalis plus au tragique qu'il n'était raisonnable, mais l'instant d'après, il retombait dans sa sombre rêverie, la figure à demi cachée par ses deux mains.